Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes pour ce dernier jour des Imaginales. Quand on a le plaisir et le bonheur de faire cette programmation et que Alain Damasio, même si il a une immense tournée et que évidemment on sait que fatigue parce que bon, il y a une passion autour de son livre qui est évidemment un bonheur non seulement pour lui, pour son éditeur, pour tous ceux qui aiment son œuvre, mais un bonheur pour l'ensemble des littératures d'imaginaire. Et on en discutait juste avant de lancer officiellement ce petit entretien. On avait constaté que hier, les journalistes du Monde se posaient la question sur un angle par rapport au livre d'Alain Damasio, qui était le rapport à la politique, non pas politicienne, mais au sens de réflexion sur la cité et l'engagement. Et c'était intéressant que Le Monde ne se soit pas limité à faire évidemment l'interview de l'homme du moment dans la science-fiction française, mais le fasse avec trois auteurs qui ont traité différemment et qui abordent différemment ces questions, qui étaient Alain Damasio, bien sûr, Pierre Bordage et Jean-Michel Truong. Et voilà, c'est-à-dire qu'un journal comme Le Monde perçoit bien que ce n'est pas seulement un écrivain emblématique, même avec l'énorme succès qu'il mérite et qui nous rend heureux tous, mais que ce succès profite à l'ensemble du genre, profite à un certain nombre de valeurs, on va en parler aussi, que porte un certain nombre d'écrivains, mais c'est chacun à sa façon et avec sa sensibilité. Et puis évidemment, quand on a la chance de faire la programmation, même si tout le monde m'avait réclamé cet entretien, vous imaginez bien que je n'allais le laisser à personne. Donc, merci Alain d'avoir accepté que je sois ta modératrice. Bien, tout petit extrait parce qu'Alain lit beaucoup mieux que moi. Je veux quand même que tout de suite on entre dans le livre. Voilà, il est dedans. Comment tu peux savoir qu'il est dedans ? Achavine a un petit hoquet rieur, surpris. À ce moment-ci de l'examen final, après 79 semaines de formation où il m'a tout appris, il ne s'attendait pas, de ma part, à une aussi potache provocation. Ça m'a échappé. Son bras est toujours tendu vers la porte close, vitrée dans sa partie supérieure, afin de m'inviter à entrer dans la salle. Il me toise à plein visage avec son calme lunaire et ses yeux pères qui sont un hommage quotidien à l'intelligence. Derrière ma saillie, aggravée par mon sourire de contenance, il lit à cœur ouvert. Que j'ai peur, que j'ai honte de m'abriter derrière des vannes déplacées alors qu'il faudrait être là, juste là, en prise, à se hisser en silence, à la hauteur de l'instant. Le furtif est dedans. Ils le savent parce qu'ils ont activé les capteurs optiques, tactiles et dermiques. La résonance magnétique et l'artillerie d'écoute, qu'ils ont mesuré les variations de l'hygromètre, le jeu des trains d'ondes et les infimes turbulences de l'air à l'intersection des murs. Ils le savent parce qu'ils ont au bout de leurs doigts et devant les yeux la fastueuse technologie des chasseurs de furtifs que j'ai mis un an et demi à apprivoiser. Cette technologie dont l'usage m'est précisément interdit pour l'examen. De manière à me mettre dans la plus nue des postures, seul dans un cube vide de 6 mètres d'arête, face à face avec le furtif. Lorca, je te rappelle les règles, cette épreuve du cube achève ta formation, elle est éliminatoire pour l'accès au statut de chasseur, comme tu le sais. Tu as passé avec brio les épreuves théoriques et techniques. Je t'en félicite. C'était nécessaire pour se retrouver là, devant cette porte. À présent, il s'agit de prouver que sans aucune aide technique, avec ta seule intuition et ton savoir acquis, avec ton seul regard et ton seul corps, tu peux capturer un furtif, le cube est une épreuve de synthèse qui catalyse la totalité de ce que tu as appris, construit et compris, d'où son prestige. Tu t'es entraîné avec des fouines et des mangoustes, avec des robots ultra rapides, des simulacres et des artefacts de furtifs, mais rien ne remplace la traque d'un original. Quelle taille a-t-il ? La taille d'un écureuil, à peu près. Il a des ailes, parfois il flotte, parfois il vole, parfois il court, comme tous les furtifs. Comment vous l'avez piégé ? Voilà. On entre immédiatement dans le roman et vous avez tout de suite senti, comme je l'ai senti, comme je pense que ceux qui ont déjà commencé le roman l'ont senti, il y a une force et tout le chapitre est une entrée incroyable. Il a du métier, Alain Damasio, mais c'est ces grandes entrées dans les romans qu'on ne trouve pas tous les jours. Et là, on est comme en état de grâce, on ne sait pas quel travail il y a derrière, mais le lecteur, lui, la lectrice, elle, est totalement fascinée et sait qu'elle est d'emblée devant un grand roman. Mais au-delà des compliments, ce que je voulais demander à Alain Damasio, c'est quoi ces furtifs ? Et d'où vous vient cette idée de créature, on ne sait pas au début du roman exactement de quoi il s'agit, qu'on n'arrive pas à repérer et qu'il s'agit néanmoins d'attraper ?
En
En fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'était en fait un fantasme que j'avais. Quand je pose les premiers mots, c'est un cahier en 2004, je l'ai encore, c'est un cahier qui sortait du Festival du Vent de Calvi, tout petit cahier comme ça, carré rouge, où je commence à marquer l'angle mort et leur lieu de vie, etc. Et en fait, c'était le fantasme d'échapper à la société de contrôle. Voilà. C'était le fantasme de se dire, bon Dieu, le numérique vient de se coupler à la société de contrôle, on laisse des traces partout, on est complètement... même pas surveillé, mais tracé, traqué. On peut rien faire sans que ces traces nous suivent, sans laisser un sillage numérique derrière nous. Et j'essayais de fantasmer la brèche, quoi, l'ouverture, la façon de sortir de ça, quoi. Et Les Furtifs est vraiment né de ça, et né de... Vous savez, moi, Serge Lehmann le disait super bien, mais la science-fiction a cette capacité à incarner, à réaliser comme ça des idées qui sont bizarres, qui sont impossibles. Et cette idée de dire qu'il existerait des êtres vivants qui échapperaient au contrôle, qui échapperaient au panoptique humain, qui seraient là depuis des millions d'années et qui vivraient dans l'angle mort de nos vies, de nos quotidiens, qui seraient dans cette salle. S'ils étaient dans cette salle, ils seraient derrière la tenture, juste planqués derrière et nous écouter. J'adorais cette idée qu'il y ait des poches de liberté à l'intérieur du plus saturé, du plus surveillé, du plus vu, quoi. Et c'est venu un peu, voilà, comme ça, quoi. C'est monté comme ça, et après, bah, tout l'enjeu d'un livre, c'est de donner une crédibilité maximum à une idée qui est en fait complètement dingue, quoi, qui est complètement liée à ce qu'on appelle le merveilleux fantastique, quoi. Et l'ASF, c'est ça, c'est la capacité à tisser et à rendre cohérent des idées qui, a priori, ne tiennent pas debout deux secondes, quoi.
Si à la technique, on pouvait avoir un deuxième micro, ce serait sympa. Ce serait plus pratique pour nous deux. Très court extrait cette fois-ci. 30 lignes, même pas. Sahar, j'ai quelque chose de très précieux à te montrer qui confirme les hypothèses dont je t'avais parlé. J'aimerais vraiment qu'on se voit. Au bout du fil, Sahar avait répondu par un silence de 10 secondes, bien tassé. Je m'étais efforcé de ne pas soupirer d'impatience, de ne pas enchaîner à fleur de nerfs et surtout de ne pas argumenter. Juste avais-je suspendu ma respiration et respecté son silence, au bout duquel je ne pensais pouvoir entendre qu'une chose, le recul cranté de la culasse et le choc du tir pleine tempe. Je ne suis pas prête à te revoir, Lorca, et surtout pas pour embrasser ça. À la place, Sahar avait déroulé une nouvelle plage de silence, coupée par un court ressac de papier qu'on déplace, puis une plage derrière la plage, encore plus longue, encore plus plane, un authentique piège à relance, cependant j'avais tenu. Enfin est venu le miracle que j'attendais depuis 9 mois. Viens me chercher après mon cours. À 11h, ne sois pas en retard. Les milices tournent beaucoup en ce moment. Tu seras où? Tu veux que mon cours soit interdit? Cherche. Voilà, là aussi, en même pas 30 lignes, le deuxième chapitre, Proférence, pose un univers. L'univers des furtifs. Il y a d'abord un personnage, Sahar, on va en dire un mot après, mais tout d'abord, un cours interdit. Les gens ne sont pas libres de faire des cours dans ce monde. C'est quoi votre dystopie, Alain Damasio? On en est arrivé où pour qu'on ne puisse pas faire un cours? Et pourquoi ne peut-on pas faire librement un cours dans votre univers?
Ben là, oui, on est au cœur des tentatives de pousser les signaux faibles et de pousser les tendances lourdes et pas forcément totalement vues par tout le monde qui sont propres à l'époque. Et ces tendances lourdes, on le sait, c'est le néolibéralisme, c'est la poussée vers l'ultra-libéralisme. C'est-à-dire que d'essayer qu'aucun champ de l'activité humaine n'échappe à la marchandisation, qu'aucun champ de l'activité humaine n'échappe à la monétisation. Et on a réussi à le faire. Enfin, ils ont quasiment réussi à le faire, puisqu'on a même réussi à monétiser l'amitié, l'échange social à travers Facebook et les réseaux sociaux. Quand vous regardez, c'est quand même un coup de génie. C'est-à-dire que tous les échanges interhumains que vous avez à travers les réseaux, ils arrivent à en extraire de la plus-value, quoi. C'est ce qui est quand même incroyable comme forme du capitalisme. Et donc là, bah, je pousse ce qui est déjà à l'œuvre dans les réformes Blanquer, dans ce que nous amène le macronisme triomphant, enfin pas tant triomphant que ça maintenant, mais qui est l'idée que bah, l'éducation elle-même va revenir au privé, va être bah, très logiquement, c'est-à-dire que ceux qui auront les moyens de payer une éducation à leurs enfants paieront, et cher pour ça, et ça leur permettra de former les élites, et puis les autres, bah, ils seront laissés à eux-mêmes. Très tôt, peut-être à l'âge de 12 ans, à l'âge de 14 ans, parce que ça n'intéresse pas le capitaliste de former des gens qu'on peut de toute façon former en une demi-journée, parce que la plupart des jobs qu'on propose aux gens, c'est des bullshit jobs qui s'apprennent en une demi-journée. Donc il n'y a plus d'intérêt à avoir une éducation nationale, et donc je pousse ça en 2040, simplement en disant bah, y a des milices qui protègent l'enseignement privé, et si tu enseignes de façon libre dans la rue pour permettre aux gamins des cités d'apprendre un peu quelque chose, bah, tu es accusé d'exercice illégal de l'enseignement. et c'est interdit. Donc voilà, mais c'est simplement pousser des tendances qui sont déjà là. Simplement, on n'a pas été au bout, et j'espère qu'on n'ira pas au bout parce que des résistances se mettent en place, que les profs résistent, que les parents d'élèves résistent, que les élèves peut-être résisteront. Et c'est un combat qui est encore incertain, mais si on laissait les choses aller, on arriverait effectivement à ce type de société où on est prof errant, c'est-à-dire qu'on est un prof qui erre pour aller chercher ses élèves et leur permettre d'acquérir quelques maigres connaissances dans des quartiers qui ont été complètement lâchés par l'éducation nationale. Mais oui, ça se profile quand même. Hein. Donc c'est montrer ça et montrer en même temps la résistance. Ouais.
Sacha, le personnage, en deux mots, pour le poser.
Pardon, le personnage.
Ouais. Le personnage de Sahar, donc c'est bon, il est très inspiré évidemment de ma compagne qui est professeure de français, qui est une très très grosse militante, on va dire, donc qui est membre de la CNT notamment et qui se bat énormément et qui est surtout une prof extraordinaire avec une passion viscérale pour l'enseignement et qui fait vraiment 1 à 2 heures de préparation pour 1 heure de cours. Même après 25 ans de carrière comme elle a. Et ce personnage, j'y tenais beaucoup au sens où je voulais en faire un personnage à la fois habité par la grâce, c'est-à-dire que c'est un peu mon idéal féminin, c'est-à-dire que moi, la notion de grâce est quelque chose qui me touche énormément. Et je voulais à la fois qu'elle porte cette dimension de grâce et en même temps cette dimension tumultueuse qu'ont les authentiques militants et militantes, c'est-à-dire ce côté... moi, ma compagne, c'est constamment comme ça, c'est-à-dire que elle fait les manifs, là, elle aide les femmes sans papier qui travaillent dans les hôtels de luxe de Marseille qui sont exploitées, etc. Elle est sans arrêt dans des luttes, en montant et descendant, selon si la lutte est en train de réussir ou pas réussir. Parfois, elle est désespérée, parfois, elle est dans une euphorie dingue parce qu'une lutte, justement, est passée et a réussi. Et ça donne un caractère qui, malgré la grâce, est très tempétueux, quoi. Et ça m'intéressait vraiment de poser vraiment un personnage comme ça, qui soit pas cet idéal féminin un peu... un peu aérien, un peu gracieux, voilà, vu du côté de l'homme hétéro habituel. Et je voulais pas non plus poser uniquement une sorte de militance un peu bas du front ou trop terre à terre. Donc je voulais cumuler ces deux dimensions. Et en plus, avec quelqu'un, un personnage qui a décidé de faire le deuil de la disparition de sa fille pour survivre, parce que sinon c'était le suicide, et qui décide qui prend cette décision incroyable parce qu'ils savent pas si leur fille est morte, si elle a disparu, où elle est. Qui décide de dire « ma fille est morte et il faut que je continue ma vie ». Alors que le père dit, lui est dans l'illusion ou pas, on ne sait pas, de dire « non, ma fille, elle a disparu, mais elle est encore vivante ». Donc j'aimais bien opposer ces deux façons de réagir au deuil et à la disparition aussi.
Réagir au deuil et à la disparition, un thème qui vous touche parce que vous avez 2 filles, Alain Damasio. Est-ce que ça change profondément l'écriture d'avoir des enfants ? Quand on est un écrivain engagé et parfois virulent comme vous, ou du moins motivé pour dire un certain nombre de choses et pour ne pas mâcher vos mots.
C'est une révolution personnelle. C'est une révolution. Moi, je me souviens d'un copain qui m'avait dit, tu sais, tu prends une barre comme ça, et puis au bout de la barre, tu mets moi d'abord, et à l'autre bout de la barre, tu mets les autres d'abord, tu sais. Puis moi, comme beaucoup de gens célibataires, j'étais sur le mois d'abord à 95%, tu vois, au bout de la barre. Puis les enfants apparaissent et tu te rends compte qu'il y a quelque chose avant, au bout de la barre, c'est eux. Et toi, tu passes en second, et c'est instinctif, c'est viscéral, c'est quelque chose que tu contrôles pas, que tu décides pas. Ça a tout changé pour moi parce que j'ai vu la vie réapparaître, quoi. C'est-à-dire que je comme tout le monde, j'avais vraiment une belle enfance, je pense qu'à 10 ans, une adolescence dégueulasse. En tout cas, que j'ai très mal vécu avec les séparations de mes parents, etc. Et cette partie de l'enfance, je me suis rendu compte que je l'avais encapsulée en moi, je l'avais protégée, et je l'avais, voilà, c'est comme un kyste d'enfance que j'avais gardé au fond de mes tripes. Et quand mes filles sont nées, j'ai pu refaire tout ce chemin, j'ai pu redécouvrir tout ça. Et j'ai pu redécouvrir ce que je cherchais dans mes bouquins de façon très forte et constante depuis le début, depuis la zone d'or, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire être vivant, voilà, qu'est-ce que ça veut dire être un être vivant et qu'est-ce que ça veut dire avoir une vitalité profonde, une capacité de jouer en permanence, une capacité d'innover en permanence, d'acquérir énormément de choses en permanence. Quand tu les vois apprendre le langage, quand tu les vois découvrir la neige, quand tu les vois découvrir la mer, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est ce que dit Épicure, vit chaque instant comme si c'était le premier. Ben eux, ils vivent chaque instant comme si c'était le premier parce que effectivement c'est le premier. Et ils te remontrent ça, ils te font rééprouver ça. Et du coup, le modèle des furtifs, je l'avais devant moi, en fait, en réalité. Parce que le furtif, pour moi, c'était la plus haute incarnation du vivant que je voulais mettre en place. Et je l'avais tous les jours devant moi avec Alyosha et Kaliroy, mes 2 filles, quoi. Et donc, ça a changé tout. Voilà. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'en un sens, ça m'a empêché d'écrire au sens où, où moi je ne peux écrire que dans l'immersion et l'isolement le plus total, et je ne pouvais plus faire ces sessions d'isolement que je faisais quand j'étais célibataire. Donc pendant très longtemps, c'est pour ça que vous avez attendu 15 ans, c'est que pendant très longtemps, elles n'étaient pas assez grandes pour que je puisse à nouveau me réisoler et travailler comme je l'entendais. Et en même temps, sans elles, il n'y a pas de roman, quoi. Tu vois, enfin, les furtifs n'existeraient pas du tout, ni sous cette forme, ni avec cette intensité, parce que c'est elles qui ont porté le... qui sont le point de fuite, quoi, la ligne de fuite du livre, quoi, et qui porte toute cette vitalité. J'ai juste eu à la transcrire dans le personnage de Tishka. Donc j'avais un modèle quotidien et vivant, donc c'était génial. Ouais.
Dernier extrait, après on continuera l'entretien, mais je tiens vraiment à vous lire ce tout petit passage, parce que c'est vraiment au cœur de votre combat, je pense, Alain Damasio. D'abord, fais-je mine de n'avoir rien entendu, tandis que les adultes prennent à partie la jeune fille qui proteste, puis sa terre boit, in fine, part en bougonnant, drainant dans son sillage de zones acolytes à tonnes. Vous ne souhaitez pas entendre ce que mon postérieur pourrait vous dire, jeune fille, osais-je finalement à la volée, vous avez peut-être peur de l'odeur, parce que votre ville est née d'un charnier, des gaz, disons, d'une multinationale. Elle est née le 7 décembre 2021, en écrasant sous 200 tonnes de gravats les 70 manifestants du collectif Reprendre et les 22 familles qui vivaient encore dans la tour et qu'il défendait. Elle est née de la faillite d'une commune asphyxiée par les banques, dégradée triple C par les agences de notation internationale et obligée d'emprunter son budget à des taux de 18%. D'une commune déclarée en rupture de paiement en 2028, lâchée par l'État et mise en vente en 2030 sur le marché des villes libérées. Vous savez ce qu'est une ville libérée ? C'est une ville volée à ses habitants, s'enhardit une vieille dame qui s'est mise en bordure du groupe sans savoir si elle allait rester ou pas. Elle reste. Une ville dite libérée est une ville soustraite à la gestion publique et intégralement détenue et gérée par une entreprise privée. Son maire est nommé par les actionnaires à la majorité simple des parts. En août 2030, la ville de vos parents, qui s'appelait Orange, a donc été rachetée par la multinationale du même nom pour un prix dérisoire. Vous savez pourquoi ? Parce qu'Orange, ils n'ont pas eu à racheter le nom de la ville. Le nom, c'est ça qui coûte le plus cher, madame. Oui, le tribunal de commerce a jugé que la notoriété de la marque Orange, la marque de télécommunications, je précise, préemptait la marque de la ville, moins connue du grand public. Je vous rappelle que Paris, racheté par LVMH, ou Cannes, racheté par la Warner, ont vendu leur nom à des prix astronomiques. Ce ne fut pas le cas chez nous. Beaucoup d'humour noir, évidemment, dans ce passage, Alain Damasio. Mais quelque part, est-ce que vous ne nous faites pas un peu froid dans le dos ? Et est-ce que vous pensez qu'on va aller jusque-là si on ne réagit pas ?
Oui, je crois assez, donc, je crois assez encore à la capacité du capitalisme d'aller plus loin. Donc là, j'en ai parlé sur la façon dont ils avaient monétisé, par exemple, l'amitié. Je pense que le capitalisme a plus vocation ou plus envie de gérer la totalité de la société, mais seulement les champs d'activité les plus rentables et seulement les zones géographiques les plus rentables. Et donc, ils vont créer des archipels comme ça rentables. Et ce qui fait que dans mon livre, et c'est malheureusement pas développé par rapport à l'idée générale, mais il y a plein d'idées dans les cahiers que vous ne développez pas, qui est qu'ils rachètent en fait très peu de villes dans cet univers-là. Et vraiment, effectivement, la ville du luxe comme Paris, avec évidemment le rayonnement extraordinaire que ça a, pour LVMH, ça vaut le coup. Hein. De toute façon, on a vu que j'ai vu que j'avais raison quand je me suis dit, ils vont appeler ça Notre-Dame de L'Oréal quand ils ont fait cramer. Quand Notre-Dame a cramé, je me suis dit, ça va être Notre-Dame de L'Oréal, Notre-Dame de Louis Vuitton, ou je ne sais pas. Parce que, vous avez vu, ils ont mis de l'argent tout de suite en essayant de se dire, tiens, si on peut récupérer ce patrimoine et puis faire du naming comme sur les stades. Nous, on a le stade Orange Vélodrome à Marseille. À Lyon, c'est le Groupama Stadium, etc. Enfin, donc, ce système de naming, je l'ai vu s'étendre. Donc, je me dis, il n'y a pas de raison qu'à un moment donné, un espace commun comme la ville ne fonctionne pas sur ces régimes en disant, ben, on va faire comme ça, voilà, effectivement, des forfaits standards, premium, privilèges. Et puis, si vous êtes standard, vous accéderez à seulement 50% des rues de la ville, des parcs, des squares. Puis si vous êtes privilège, vous accédez à la totalité. C'est-à-dire que vous considérez que l'espace commun public n'est plus commun, il n'est plus public, qu'il est privatisé, que vous avez la ville que vous méritez. Sous-entendu, si vous avez du fric, ben, vous avez accès au beau parc, au beau square. Et puis surtout, vous n'avez même pas à faire les embouteillages parce que vous avez des avenues qui sont vides vu que les standards n'ont pas le droit d'aller dedans. Et puis c'est très facile à gérer en plus puisqu'avec un smartphone, on peut très bien géolocaliser où vous êtes. Et si vous rentrez dans la mauvaise zone, décaisser 35 euros d'amende ou 50 euros d'amende parce que vous êtes entré dans une zone interdite. Donc, c'est tout à fait possible, même techniquement, de le faire aujourd'hui dans une logique de Smart City. Donc, je voulais montrer ça. Voilà, je voulais montrer ça, encore une fois, dans ces logiques ultra-libérales et montrer comment, aussi, bien sûr, la résistance ou la lutte va s'organiser contre cette privatisation des espaces publics, mais c'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Enfin voilà, moi, c'est ce que je vois à Marseille. Il y a des rues, des séries de 3-4 rues qui sont entièrement privatisées, protégées par un portail vert, alors qu'elles appartiennent à la ville et qu'il n'y a aucune raison que ces zones-là ne soient pas accessibles, qu'on ne puisse pas traverser par ces zones. Et en fait, moi, à Marseille, constamment, je fais des U pour aller d'une zone à l'autre parce que tu es obligé de contourner ces îlots. Donc, c'est des choses, voilà, quand on dit voilà, la science-fiction, l'anticipation, vous anticipez, bah oui, mais on ne l'anticipe quasiment pas. On décrypte surtout ce qui est en cours, ce qui est déjà prototypé et qui va se généraliser. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà. C'est là qu'on joue un rôle politique en faisant ça. Ouais.
Est-ce que, justement, un roman comme Les Furtifs, qui est un vrai roman de science-fiction, avec bon, cette idée de la furtivité, est-ce que quelque part, on en parlait hier dans l'hommage à Heyerdahl, est-ce que quelque part, même si c'est très original et très différent, cette furtivité, vous avez pensé un peu à la transparence d'Heyerdahl et à la façon dont l'héroïne d'un de ses romans, transparent justement, Naïs, circule dans la ville?
Ouais, il y a cette scène extraordinaire qui est restée mythique, hein, vraiment de l'ouverture transparence d'Heyerdahl où il décrit comme ça cette fluidité de circulation du personnage qui n'est pas vue. Moi, j'aimais beaucoup cette chose-là et c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours beaucoup plu. C'est que moi, j'ai un physique très banal, en fait, et voilà, pendant très, très longtemps, en tout cas, avant que mes livres, malheureusement, heureusement, marchent, mais j'étais transparent. C'est-à-dire que les gens ne me regardent pas. Et ça, j'adore ce truc-là, cette espèce d'anonymat où... Parce que quand tu es écrivain, toi, tu as besoin toujours d'observer, de regarder, et si on te voit en train d'observer ou si on te regarde, tu ne peux pas faire ce travail d'éponge, de buvard, d'absorption du monde, quoi. Donc, tu as besoin d'être furtif, tu as besoin de voir sans que les autres voient que tu les vois, quoi. Voilà. Et du coup, ouais, je pense qu'il y a un lien avec ce... Mais je pense que l'idée de transparence, l'idée d'invisibilité, etc., il travaille énormément l'art contemporain, travaille énormément le cinéma, travaille énormément la littérature. Et c'est normal, parce que tout le monde sent, et les artistes encore plus, parce qu'ils ont cette espèce de sursensibilité, tout le monde sent qu'on est dans un monde d'omnicontrôle, de panoptique, d'omnivisibilité, et qu'on reconquérera un espace de liberté que si on échappe à ça. Donc... échapper à ça, ça veut dire soit faire des machines à faire le flou, soit être dans le flou, soit devenir flou, ou fait flou, comme je dis des fois, soit devenir furtif, soit retrouver de l'anonymat, soit se loger dans les blind spots, soit partir très très loin dans des zones du dehors, comme ça, où on pourra à nouveau se redéployer. Mais il y a vraiment toute une stratégie de fuite à mettre en place, quoi. Donc c'est compliqué, mais Heyerdahl, je pense, avait senti, encore bien avant moi, ce qui se mettait en place. Et pose ce personnage qui a la faculté d'échapper à tout, effectivement, à tout l'archivage, toute la traçabilité, et qu'on n'arrive pas à attraper, justement, quoi.
Là encore, quand on regarde la façon dont le roman démarre, j'ai une petite surprise, parce que le personnage, en tout cas un des personnages principaux qui ouvre le roman, il chasse le furtif. On verra très vite dans le roman que c'est pour des raisons très personnelles qu'il fait cet engagement, après 18 mois. Ce n'est pas quelqu'un qui vient nécessairement des unités de sécurité, pas du tout. Et c'est quelqu'un qui rentre à l'armée, quand même. En tout cas, il travaille pour l'armée. C'est la première fois que je vois des personnages qui viennent de l'appareil d'État. Et quelque part, on a l'impression que dans ce contexte, même s'il y a des militaires pas sympathiques du tout, assez odieux même, globalement, il y a des militaires sympas qui sont parfois plus sympas que les multinationales. Est-ce que c'est pas ça le plus effrayant aujourd'hui, Alain Damasio ?
Oui, il y a des gens qui ont été surpris que j'utilise une unité de l'armée, etc. Pour moi, c'est des systèmes de cohérence par rapport au livre. C'est-à-dire que si ces aides sont aussi éminemment furtifs, les seuls qui ont pu les détecter à un moment ou à un autre, c'est l'armée, parce qu'ils ont développé des outils de... Vous savez que moi j'étais beaucoup intéressé par analyser l'évolution des armées modernes et postmodernes, c'est-à-dire de dire que j'avais lu quelque chose qui m'avait vraiment touché, qui disait si tu vois, tu tues. Voilà. Aujourd'hui, en tout cas, voilà, si tu prends l'aérien ou même les sous-marins, etc. La grande difficulté, c'est de voir la cible. Si tu as les moyens de voir la cible, si avec tes radars tu vois la cible, elle est déjà morte parce que les missiles qu'ils ont sont capables d'aller chercher n'importe quelle cible. Et ça me touchait beaucoup. Voilà. Donc, par système de cohérence, je me suis dit, bon, si des gens ont pu les détecter, c'est forcément les militaires. Et j'aimais bien aussi l'idée de montrer que l'armée, je le montre dans le bouquin, que l'armée est devenue un business as any, comme je dis à un moment donné, c'est-à-dire que même l'armée s'est libéralisée et même l'armée est obligée de vendre de la sécurité aux copropriétés, des drones pour protéger les immeubles, etc. Et finalement, ils ont été eux-mêmes bouffés par le libéralisme et ils travaillent et ils raisonnent. Donc, la recherche furtive, elle est vendue un peu au ministère de l'armée comme un outil d'infiltration ou de détection ou de test des systèmes de sécurité, etc. Ce qui fait qu'ils sont bouffés, même ce qui est le plus vraiment étatisé, tu vois, c'est ça, la police et l'armée qui, a priori, devraient être intouchables d'un point de vue du libéralisme. Même eux, ils rentrent et ils se monétisent et ils sont obligés de jouer le jeu du business pour survivre. Donc, ça me plaisait bien de montrer ça, ouais.
Justement, évidemment, le livre est un vrai roman de science-fiction, un vrai roman avec des personnages, un roman qui raconte, un roman qui parle bien sûr d'un futur proche qui pourrait arriver, qui ne sera peut-être pas le nôtre, en tout cas, on l'espère, tel qu'il est décrit. Mais c'est aussi un roman qui est une écriture. Et la question que je voulais poser à Alain Damasio, c'est qu'est-ce qui est dans le roman le classicisme de la narration et qu'est-ce qui reste, puisque c'était déjà présent dans le précédent roman, qu'est-ce qui reste de l'expérimentation sans aller trop loin pour ne pas perdre le lecteur? Donc, qu'est-ce que c'est être un écrivain qui veut être dans la modernité, mais néanmoins raconter une histoire est accessible à tous?
Ouais, il y a plusieurs enjeux dans l'écriture. Il y a deux gros enjeux déjà. Il y a l'enjeu narratif et il y a l'enjeu stylistique, quoi. L'enjeu narratif, il était pour moi de garder la polyphonie, de garder cette façon d'écrire qui pour moi est fondamentale, c'est-à-dire d'exprimer le réel à travers plusieurs subjectivités, plusieurs têtes et plusieurs corps, chacune dotée d'une caractérisation stylistique très forte. Donc le fait d'avoir cette dynamique de récit où tu passes d'un personnage à l'autre, qui était propre à la Horde du Contrevent, mais qui était déjà là aussi dans la zone d'or, pour moi c'est ma façon d'écrire, j'arrive pas à écrire autrement, je me fatigue si j'écris autrement, ça me permet de garder une vitalité extrême dans le jet. Et ça me permet surtout d'avoir politiquement quelque chose qui me paraît être l'histoire de groupe et pas l'histoire d'un seul individu. Moi, quand je le dis parfois, l'imaginaire de droite, c'est un seul individu qui se bat contre un système difficile et puis qui réussit individuellement à s'en sortir. Il me semble que l'imaginaire de gauche, c'est de montrer un groupe qui s'en sort et qui résiste et qui retourne les systèmes de pouvoir dans lesquels ils sont insérés. Donc, cette logique-là, je l'ai toujours gardée. C'est le bosquet dans la zone, c'est la Horde, effectivement, bien sûr, dans la Horde du Contrevent. Et puis ici, c'est la meute de furtifs et ensuite tout le groupe qui se constitue autour. Donc ça, je voulais le garder narrativement et j'ai gardé cette conduite-là en lui donnant une dimension plus typographique encore dans la caractérisation. Et puis après, il y a le style lui-même, il y a le travail sur l'écriture elle-même. Et là, c'est très long pour moi, très compliqué, je corrige beaucoup. Je définis effectivement des systèmes de syntaxe pour chacun, des systèmes de sonance pour chacun, des dominantes de phonèmes pour chacun, des couleurs donc de sons pour chacun. Des registres, etc. Et une fois que tout ça est bien posé, je commence vraiment à essayer d'entrer dans le personnage et faire en sorte que ça ne soit pas artificiel, mais que je me mette vraiment à m'exprimer comme Aguaro s'exprime, comme Homer s'exprime, avec le même type de syntaxe, de saccade, de nervosité, par exemple, pour Ner, ou avec Aguero, avec l'explosivité assez souple qu'il caractérise. Donc après, moi, je trouve qu'on ne le dit pas assez, mais en fait, on fait un boulot de comédien, quoi. On fait un boulot d'athlète affectif, pour reprendre le mot que j'adore d'Antonin Artaud, c'est-à-dire qu'il faut qu'on rentre dans le système d'émotion du personnage. Voilà. Et ça, c'est le plus gros du boulot, c'est ça qui est le plus épuisant, c'est ça qui t'use quand t'écris un roman, et c'est ça le plus passionnant aussi, c'est ça qui te rend le plus heureux quand t'écris, mais c'est que tu passes à travers tout un système de fibres, de sensations, d'émotions qui sont propres au personnage, et que tu vois, tu sais même pas où tu vas l'épuiser, c'est-à-dire que tu vas l'épuiser dans l'inconscient, que tu sais pas où il est. Souvent dans l'enfance, dans des choses que tu as vues ou dans des gens que tu as vues, donc tu as des inspirations qui sont liées à des types d'affects que tu as perçus chez des personnes que tu aimes et tu les utilises, tu les habites et tu fais en sorte que ça vive. Donc moi, c'est pas tant, les gens ils disent ouais, vous essayez de faire des trucs postmodernes ou modernes ou du lettrisme ou je sais pas quoi. Moi en fait, je m'en fous, j'essaye pas de faire quoi que ce soit de spécifique, j'essaye d'être le plus juste et le plus exact par rapport au choix des personnages que j'ai fait. Et si j'ai besoin de la typographie pour ma narration, je vais l'utiliser. Voilà. Là, on avait fait un truc de fou qui était de dire sur le personnage de Sarr, pour revenir à Sarr, on prend des J et on enlève le point. On prend des J qui, sous le glyphe Garamond, n'ont pas de point sur le J, donc, au-dessus, et des F où la moitié du bar est effacée. Et tu te dis, mais pourquoi il fait ça? Il se fait plaisir, machin. Non, mais parce que narrativement, elle a décidé de faire le deuil. Donc, elle, il lui manque sa fille, quoi. Tu vois, et ce tout petit point, c'est l'incarnation physique, optique du manque de sa fille, alors que Lorca, lui, vous verrez, il y a plein de points surnuméraires parce qu'il habite un appart où toutes les photos de sa fille sont au mur. Et donc, on joue avec ce point qui va revenir, vous allez voir, à un moment donné dans le roman. Tant pis si je spoil, je m'en fous. C'est-à-dire que juste un point sur un J devient un vrai élément de narration, quoi. Et je me dis, mais pourquoi se priver de ça? Voilà, c'est tout. Moi, c'est plutôt ma... Je ne comprends pas pourquoi pas plus d'auteurs utilisent la typographie, qui est un art graphique et optique pour véhiculer la sensation. Pourquoi pas plus d'auteurs utilisent la polyphonie? Pourquoi pas plus d'auteurs aussi utilisent les couleurs des sonances pour essayer de transmettre de la sensation? Enfin, je veux dire, les grandes leçons que nous ont donné Bradbury, que nous ont donné Antoine Volodine, que nous ont donné des gens comme ça, c'est qu'un univers d'imaginaire ne peut tenir debout que s'il est habité par des sensations corporelles, physiques très fortes. Si on sent le goût, si on sent l'odeur, si on sent le poids des choses, si on sent le côté gluant ou pas gluant, si on sent le côté lisse, si on a des dimensions bien sûr visuelles et auditives fortes, je veux dire, tu relisais Ubik, quoi. Ubik, c'est incroyable. Il arrive à rendre crédible un univers complètement hallucinant juste parce qu'il ancre des choses qui, sensuellement, sont très profondes, quoi. Et cet ancrage sensoriel, il fait toute la différence dans la crédibilité ou non d'un univers. Donc le style, ce n'est pas juste une couche rajoutée, c'est que sans le style, bah, ça existe moins, tout simplement, ça existe moins. Et moi, quand je vous fais rentrer dans un monde où des furtifs, des êtres existent depuis des millions d'années, que personne n'a vu, ils habitent parmi nous, comment voulez-vous croire à cette connerie-là? Enfin, tu vois, à cette espèce de truc de dingue. Moi, je me rappelle quand j'ai raconté à mon père, il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette idée à la con encore que tu vas nous faire, tu vois? Et il a raison, c'est une idée à la con, tu vois. Mais l'idée à la con, elle prend une force extraordinaire si l'ancrage sensoriel, et là c'est par le son que je le fais sur les furtifs, si l'ancrage sensoriel est là. Donc le travail d'écriture, vraiment, je tiens à le dire, et surtout pour des gens qui essaient d'écrire, qui seraient des écrivains débutants, ne vous dites pas j'ai une couche de fond, j'ai une idée, et puis ensuite je rajoute une couche de style. C'est absolument pas comme ça que ça se passe, quoi. C'est-à-dire que c'est l'écriture elle-même qui va rendre vivant et crédible et fort ce que vous faites. Et s'il n'y a pas d'écriture, ben, vous aurez juste... vous véhiculerez une idée, voilà, vous serez sur un champ conceptuel, un what if conceptuel, mais ce que vous faites n'arrivera jamais à entrer dans la mémoire et le cœur et l'esprit et les sensations du lecteur. Qu'est-ce que c'est pour moi un bon livre? C'est un livre qui te laisse une mémoire. Tu as l'impression que tu as vécu les choses que les autres... C'est pareil sur un bon film. Et pour laisser cette mémoire, bah si tu n'as pas les véhicules sensoriels, tu n'y arrives pas, quoi. Volodine, il te fait des trucs de dingue. Moi, je me souviens d'une scène de Volodine, je ne sais plus dans quoi c'est, où il est dans une espèce de cave, tu vois, et tu as des niveaux, des couches de noir. Il te fait une sorte de camaïeu de noir, tu vois, le truc. Tu te dis, mais c'est pas possible de faire ça. Et au milieu de cette espèce de cave, il y a juste un jukebox, mais que tu vois à peine à travers les multicouches de noir qui te... Mais c'est une puissance, ce truc, tu vois. Et juste, il a posé un jukebox au milieu du noir, quoi. Tu vois, c'est... Mais il faut voir les sensations qu'il met derrière, quoi. Et optique, et en plus, il fait chaud, t'es comme dans du suif chaud, comme ça, tu vois. Et voilà, et c'est ça la force, quoi, tu vois, c'est, enfin, moi je trouve dans l'écriture, donc c'est fondamental, et ça fait corps, il n'y a pas de fond et de forme, c'est la même chose, quoi.
Mathieu nous a parlé d'odeur, nous a parlé de son, dans ses premiers chapitres en particulier, où on rentre dans le livre, moi j'ai eu l'impression d'entendre la respiration des personnages, je me trompe?
Ah ouais, c'est décisif, là quand on l'a joué en concert, c'est vraiment un moment clé, c'est-à-dire qu'il y a d'infimes pétulance de l'air, comme je dis, ou d'un film rafale, et tu déchires comme ça les textiles frais avec la buée de ta bouche, et la notion de respiration, de prendre le cube, de le dilater, de l'avaler, de le reprendre, parce que forcément, comme tu vois pas, t'as aucun recours visuel, parce que tout est blanc, et le furtif est toujours derrière toi. Donc, qu'est-ce qui va te sauver la vie, enfin, en tout cas, qui va te permettre de réussir l'épreuve, c'est ta capacité à entendre les infimes réverbérations sur le béton, les infimes réverbérations du déplacement, en fait, du furtif, qui laisse quand même des toutes petites traces sonores quand il se déplace. Et du coup, tout ce jeu-là doit être sensible dans l'écriture pour qu'on sente effectivement la respiration et les réverbérations.
Est-ce que c'est furtif aussi, quelque part? C'est pas un petit clin d'œil d'Ikien? Parce que on rappelait aussi la formule, je crois que c'était Michel Jury, sur tu es assez malin pour savoir ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Le problème, c'est que c'est furtif. On se demande, surtout au début du livre, s'ils sont réels. Et certains personnages, là, on voit dans le couple qui se déchire à partir de la perte d'un enfant, l'un les traque et l'autre pense que c'est bidon, que ça n'existe pas.
Mais là, j'ai joué vraiment sur une mise en abîme qui me paraissait vraiment intéressante. C'est-à-dire que je me suis dit, bon, c'est tellement difficile à croire ce que j'essaye de mettre en place. Il faut que j'ai un personnage qui porte l'incrédulité. Voilà. Et que, donc, c'est Sahar qui la porte. Et en face, que Lorca, progressivement, va au fil du livre la convaincre. Et en la convainquant, c'est vous que je convainc. C'est-à-dire que tout ce que dit Sahar, à un moment donné, elle dit, mais oui, mais OK, mais je comprends que cette légende urbaine, dans un monde tellement, tellement tracé, tellement, tellement surveillé, c'est évident qu'on rêve tous de cet espace de liberté, de ces êtres qui existeraient, qui échapperaient à tout, mais c'est un pur fantasme de société de contrôle, ce que tu me racontes. Et OK, je veux bien croire qu'anthropologiquement, ça soit crédible et tout, mais arrête d'y croire, c'est débile, tu vois. Et en disant ça, je m'adresse vraiment au lecteur. Donc il y a un jeu effectivement de mise en abyme. Mais ça, c'est des petites astuces effectivement d'écrivain. À force, on trouve ces petites choses. Mais au moment vraiment où ça rebascule, le lecteur, il n'a plus le choix. Il est obligé de basculer parce que c'était le seul personnage qui portait l'incrédulité.
On ne reste plus pas beaucoup de temps parce que tout à l'heure, on aura évidemment une autre conférence qui arrive, un autre débat. Mais j'ai encore deux, trois petites questions à poser à Alain pour creuser un petit peu et vous donner évidemment envie de vous ruer à la sortie de la salle sur Les Furtifs, à acheter le bouquin. Et il y a des idées de cadeaux aussi. C'est vrai que c'est un livre fort et puissant et on ne regrette pas d'avoir attendu Alain. Alain est engagé depuis longtemps. Il ne s'en cache pas, il ne fait pas semblant. Les gens de droite aussi sont engagés ailleurs, simplement. Hein. Bon, pas de croire que ce qu'on dit toujours, il est engagé, donc sans eux, il est à gauche. Non, ça, c'est des bêtises. Tout le monde est engagé, ne serait-ce qu'en ne l'étant pas. Donc, il y a c'est pas nouveau, il y a longtemps que dans les romans, dans les nouvelles, j'ai le plaisir d'en publier une il y a pas mal d'années, on voit un écrivain qui a des choses à dire, qui au-delà de raconter, parce que c'est avant tout un raconteur d'histoire, sinon on n'est pas romancier, on va distribuer des tracts sur le marché, ou on fait autre chose, on fait un happening, ou on va dans la ZAD, enfin on fait quelque chose, on peut aussi faire les deux d'ailleurs. Qu'est-ce qui amène un romancier qui à la fois donc ancré dans sa littérature pour qu'il soit fondamental dans sa vie. Il pense que c'est fondamental dans la vie de beaucoup d'autres gens, sinon il n'écrirait pas des histoires pour eux. Comment un romancier se situe-t-il comme homme engagé dans les batailles du temps et je fais allusion à un certain nombre d'articles. Je pense entre autres à un site internet où vous avez des chroniques que j'ai lues parce que je suis abonné à ce journal, à peu près le seul qui est à peu près libre encore dans ce pays. On en dira un tout petit mot. Et puis, j'avais lu dans le temps des prises de position très affirmées, y compris où l'écrivain prend quelques risques, puisque Alain Damasio a clairement soutenu le groupe de Tarnac en dénonçant, et à l'époque, c'est vrai qu'on n'était pas si nombreux à dire que c'était évidemment un truc bidonné et scandaleux, parce que quelles que soient les opinions, qu'on soit d'accord ou pas avec ce groupe, traités comme des terroristes, comme des poseurs de bombes, des gens qui avaient juste des opinions, éventuellement pas les nôtres ou pas celles de certains, ça pose débat. Donc là aussi, j'ai l'impression que le fait d'avoir deux filles a amené non pas à modérer Alain Damasio, mais à réfléchir sur la question qui était aussi au cœur de sa réflexion politique, la violence. La violence de l'oppression, on la connaît, on sait qu'elle existe. Vous, comme critique dure de cette société, vous êtes prêt visiblement à la mettre à bas, en tout cas à y contribuer. Jusqu'où on va face aux violents pour imposer que ça n'aille pas dans cette direction ? Quel est votre rapport aujourd'hui, Alain Damasio, à la fois personnel, privé et politique, à la violence ?
Moi, je crois que la question a été soigneusement pipée par les médias dominants, c'est-à-dire qu'on essaye d'appeler violents des gens qui mettent le feu à la devanture du Fouquet's ou qui cassent trois vitrines ou trois abribus d'éco. Et puis, on n'appelle pas du tout violent des choses qui sont infiniment plus violentes que d'avoir 5 millions de chômeurs, que de laisser des migrants crever par centaines de milliers dans la Méditerranée en refusant même de les accueillir quand les bateaux arrivent à passer sur nos sols. Donc, il y a des violences institutionnelles, systémiques extrêmement, extrêmement puissantes qui sont justement, par les pouvoirs, non appelées violences. Et puis, il y a des choses qui sont très spectaculaires, mettre le feu à une bouteille, à une bagnole, ou péter une vitrine, et qui sont appelées violences. Donc moi, je distingue déjà très fortement violence sur les biens et violence sur les personnes. Et ensuite, j'essaye de mesurer le rapport de force. La violence, elle est utile à un moment donné où le rapport de force pacifique, démocratique, où la désobéissance civile ne suffit pas, quoi. Et on est en train d'atteindre ce seuil-là. On est face à une répression policière en France qui n'a jamais atteint ce niveau-là depuis, je pense, la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, je crois que si vous êtes descendu dans la rue une ou deux fois, vous le savez. Je n'ai jamais vu des manifestations aussi nassées, aussi gazées, aussi frappées, avec des lanceurs de balles qui éborgnent des gens, avec des morceaux de main qui sont arrachés par des grenades, qui sont des grenades de guerre, avec des armes à létalité réduite, comme ils disent, ce qui est quand même le meilleur oxymore que j'ai jamais vu dans les 30 dernières années. Hein. Qu'est-ce que c'est la létalité réduite ? C'est-à-dire, ça te rend mort, ça te rend mort, mais pas complètement, tu vois, moi. Voilà, donc c'est encore un chef-d'œuvre de novlangue. Mais tout ça pour dire que, voilà, moi je viens de faire une nouvelle sur les Gilets jaunes qui va sortir au Diable Vauvert, donc dans un recueil sur les Gilets jaunes, où ça s'appelle Trois nuances de jaune. Je parle juste de ça rapidement, mais pour dire que je donne trois approches. Il y a une approche qui est presque fantastique, c'est le golem spirituel qui sort des luttes communes, etc. Je passe là-dessus, et qui contamine par le jaune un peu tout, jusqu'à Macron, jusqu'à l'œil de Macron. Mais surtout, il y a deux nuances qui sont intéressantes. Il y a une nuance que j'appelle conviviale, chaleureuse, qui est basée sur le lien collectif qu'on peut trouver sur les ronds-points, sur des marchés à prix libre. C'est-à-dire que c'est toute une dynamique comme ça de réunions, d'amitié, de réseaux affinitaires, de retrouver ce lien, parce que la conquête du lien, c'est vraiment l'enjeu de l'époque, parce qu'on est une société individualiste, et pour nous, tisser le lien, ça devient vraiment un défi. Et puis, il y a une partie, vous le lirez, qui est sur l'action directe, de l'action directe. Voilà. Vous savez, le groupuscule Action Directe, hein, qui avait préempté le nom, mais surtout l'action directe, c'est de dire, à un moment donné, on va agir directement sur la source de ces gens qui ne sont jamais touchés, qui sont des milliardaires notamment, hein, Bernard Arnault avec ses 87 milliards d'euros et ses 3,2 millions d'années de SMIC que ça permettrait de payer, n'est jamais touché, il a 6 gardes du corps, il continue à exercer sa violence systémique sur tout le monde sans n'avoir jamais aucun problème. Et il y en a comme ça une cinquantaine en France. Il y a aussi des députés LREM qui sont des godillots et qui ne font absolument pas le boulot, qui laissent passer des lois vraiment liberticides et régressives extrêmement grave aujourd'hui. Ces gens-là, il faut aller les chercher. Voilà, moi, c'est tout ce que je dis. Vous l'interprétez comme vous voulez. Mais c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où l'invulnérabilité de ces gens-là n'est plus supportable. Voilà. Et qu'il faut aller les chercher parce qu'eux ne bougent pas et ils ont décidé qu'ils nous chiaient dessus, quoi. Et qu'ils allaient continuer à nous chier dessus et à chier sur toutes les manifestations démocratiques qu'on fait et sur toutes les façons dont on désobéit civilement. Donc, à un moment donné, il faut monter d'un cran, quoi. Voilà, il faut arrêter de se cacher derrière son petit doigt, de dire « Non, mais moi, je suis pacifiste. » Oui, mais tu es face à des gens qui ne sont pas pacifistes. Donc, qu'est-ce que tu fais à un moment donné? Tu te laisses marcher dessus, tu te laisses rouler dessus, tu laisses continuer à passer des lois qui sont absolument scandaleuses sur le travail, sur les retraites, sur la SNCF, sur les hôpitaux, sur l'éducation nationale. Tu laisses ce monde se faire entièrement marchandiser. Non, mais c'est bon, à un moment donné, il faut bouger, quoi. Voilà, donc, bouger, c'est peut-être passer un cran, et passer ce cran qu'on appelle à tort la violence, parce que c'est juste une façon de réagir et de faire bouger les rapports de force. Et il va falloir le faire, parce que même le juridique ne suffit plus. Donc, c'est juste des prises de conscience. De toute façon, il y a des moments où il faut négocier, il y a des moments où il faut manifester pacifiquement, puis il y a des moments où il faut monter l'écran et aller chercher les gens. Donc, moi, c'est ce que je pense aujourd'hui, mais vraiment en l'état actuel, 2019, des choses, quoi.
On va bientôt devoir terminer notre entretien parce que je vois que nos amis attendent, mais je voulais quand même poser une dernière question sur un autre aspect. J'ai eu l'occasion de tomber sur Ciné mensuel que j'ai tendance à lire et Ciné Madame avec une interview d'Alain Damasio qui est titrée « Je suis devenu un féministe ». Et ça renvoie à une question que je comptais lui poser, donc, déjà croisé depuis un moment, sur justement une sorte de machisme, virilisme de certains de ses romans. On adore ses livres et il n'est pas là par hasard, mais peut-être une interrogation sur, non pas, Alain Damasio n'a jamais été par exemple homophobe ni sexiste, mais on ne l'avait pas vu, lui qui était engagé sur plein de terrains, on ne l'avait pas vu parler sur les droits des femmes, on ne l'avait pas vu parler sur les droits des lesbiennes, des gays, des transgenres, et là on sent, y compris dans le roman, on sent dans des interviews, on sent qu'il s'est passé quelque chose aussi dans la vie d'Alain Damasio, dans ses rencontres, et qu'il a avancé, je dis comme je le ressens, hein, il me dira si je me trompe, il a avancé, il a des positions différentes de ce qu'il a pu avoir, non pas qu'il a changé d'avis, mais qu'il a pris en compte dorénavant, lui qui parlait de certaines minorités, on parlait des migrants, on peut parler de certaines catégories sociales opprimées, et il y a aussi des minorités qui parfois ont y compris des statuts sociaux, culturels ou économiques, mais qui sont opprimés pour la couleur de leur peau, pour leur identité, pour leur sexualité. On a l'impression que ces combats lui étaient étrangers et on a l'impression que ça n'est plus le cas. Je me trompe, Alain ?
Ouais, c'est ça qui est intéressant aussi dans l'engagement politique, c'est que tu as vraiment des angles morts. Là, on peut parler comme dans Les Furtifs. C'est-à-dire que moi, j'avais un angle mort très fort qui était lié vraiment de l'endroit où je viens et surtout de mon père qui était vraiment un patriarche et qui était quelqu'un d'assez... Bah ouais, qu'on peut le dire, qui est machiste. Et donc, moi, le chemin vers l'ouverture et la compréhension des enjeux de genre, des enjeux du féminisme, a été long et tardif. Mon premier livre, si vous l'avez lu, en gros, c'est l'histoire d'un groupe de mecs. Hein, et il y a un seul personnage qui est très beau, qui s'appelle Boule de Chat, mais qui est vu uniquement à travers le désir et l'admiration de Cap, du personnage principal. Le deuxième, ça va un tout petit peu mieux, parce qu'effectivement, il y a, pour moi, en tout cas, deux très beaux personnages féminins comme Orochi et Aoi. Mais c'est quand même un livre très viriliste, hein, je pense, pour ceux qui l'ont lu, au sens où voilà, tu as le Golgoth, Erg, les Dubka, les Pietro, etc. Donc on est dans une logique assez, assez classique, hein, si on l'analyse par des enjeux de genre, assez classique, avec quand même une dominante masculine forte. Et ces enjeux, ils m'ont atteint très tard. Ben, ils m'ont atteint quand j'ai rencontré déjà ma femme, mais qui évidemment est une militante aussi féministe. Donc, ça fait 14 ans que je suis avec elle, donc elle a eu le temps de me faire, me faire évoluer. J'ai eu deux filles aussi, ce qui change beaucoup de choses dans la perception. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des vrais angles morts, c'est-à-dire des choses que je ne voyais pas. Il y avait des enjeux que je ne voyais pas. Comme vous, certainement, il y a des enjeux que vous ne voyez pas, qui vous sont propres. Et par exemple, dans les modes d'attention, mais c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est comment ton mode d'attention aux choses évolue. Moi, par exemple, quand j'étais en salle et que les gens posaient des questions, tu vois, on passait le micro au public, je ne faisais jamais gaffe qu'en fait, généralement, les 5-6 premières questions, c'est des mecs qui se lèvent et qui parlent. Tu vois, ça paraît tout con, mais ça dit beaucoup de choses sur la capacité d'auto-affirmation et d'auto-légitimation masculine aujourd'hui, et sur le fait que, généralement, pour les filles, c'est plus difficile de prendre le micro, de se sentir légitime à le faire dans un cadre d'assemblée publique. C'est des choses que je voyais absolument pas avant, je ne mesurais même pas. Et maintenant, je commence à être attentif à ces toutes petites choses qui fait que tout d'un coup, ton regard change. En fait, tu changes politiquement, pas parce qu'on t'annonce un certain nombre de choses, qu'on te donne des idées, mais parce que ton mode de perception change. Voilà. Et c'est ça qui est en train, pour moi, de muter. Je vous dis franchement, c'est douloureux, parce que quand tu es du bon côté de la barrière... Moi, je suis le mâle de quasiment 50 ans, occidental. Je coche toutes les bonnes cases. Je suis dans toutes les majorités, en fait, tu vois. Je ne suis pas du tout dans aucune minorité, donc c'est vraiment cool pour moi. Et du coup, je peux faire abstraction de tout ce que les minorités subissent. Et puis, tout d'un coup, tu rencontres des gens, ils te font comprendre un certain nombre de choses. Là, c'était marrant sur les furtifs, parce que Sabrina Calvo donc, avait lu le livre. Et elle me dit, bon Dieu, tu parles de l'hybridation des corps, tu parles de je ne sais pas combien de luttes sociales. Et il me dit, tu as quand même un putain d'angle mort voilà, sur les luttes LGBT, sur le phénomène trans, sur des luttes qui sont très contemporaines et qui sont appelées à grandir dans le futur. Et tu n'en parles même pas. C'est quoi ce bordel? Tu vois, il m'a emmené dans les vignes, il a commencé à me parler. Et puis là, je me suis dit, mais putain, mais... Et je n'avais pas vu. Effectivement, c'était derrière mon épaule, comme les furtifs. La lutte LGBT, je ne la voyais pas. Quoi, tu vois. Alors, bon, je ne peux pas parler de tout. Là, je ne parle pas du racisme dans ce livre-là parce que ce n'est pas le sujet. Mais tu vois, il y a des moments, il faut prendre conscience que putain, t'es censé être ouvert, t'es censé voir des choses. Et puis il m'a mis une deuxième claque que j'ai toujours pas digérée. Il m'a dit, mais en fait, tout ce que tu fais, Alain, depuis le début, c'est complètement hétérocentré, quoi. Et là, j'ai fait, putain, enfoiré. Et voilà, donc c'est-à-dire qu'effectivement, bah, c'est hétérocentré. C'est-à-dire que moi, j'ai pas la logique, si tu veux. Moi, je suis un hétéro de base, machin. Donc, mon regard, il ne va pas chercher tous les angles, tous les axes. Et c'est vachement intéressant d'être secoué par les proches qui le font gentiment, mais qui tout d'un coup t'ouvrent une porte, comme moi, j'ai peut-être ouvert des portes sur la lutte zadiste ou sur d'autres choses. Donc voilà, c'est un chemin, mais il ne faut pas croire qu'on est tout de suite dans le... Moi, je viens de loin, et donc mon chemin, il est... Voilà, je pense que le furtif, c'est un peu mieux qu'avant. J'espère faire encore mieux après.
Eh bien, ça sera le mot de la fin de cet entretien. Si Alain accepte, il sera le bienvenu l'année prochaine pour cette fois-ci avoir peut-être un débat plus direct avec le public. En tout cas, on serait ravis de l'avoir. Merci Alain Damasio. C'est une invitation pour moi. Et on fera...